Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, vous étiez avec nous peut-être hier soir dans Tech & Co. On a quasiment découvert en avant-première donc la version 4 de ChatGPT, cette intelligence artificielle conversationnelle, comme on dit, qui est bluffante, encore plus bluffante que la 3.5, même si certains disent que c'est subtil, d'autres disent que c'est une révolution incroyable. Il fallait qu'on prenne le temps dans Tech & Co au lendemain de cette annonce et de revenir sur tout cela avec nos invités. Gilles Babinet est avec nous sur le plateau de Tech & Co. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Voilà, un passionné de nouvelles technologies, entrepreneur, co-président du Conseil National du Numérique. Gilles, je sais que tu suis attentivement tous ces sujets, l'intelligence artificielle, tu tweets beaucoup sur tout cela, et on trouvait très intéressant d'avoir ton avis. Et puis par téléphone, nous avons aussi Michel Lévy Provençal. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Fondateur des conférences TEDx, entrepreneur aussi et passionné par ces sujets. Merci d'être là tous les deux. Gilles, peut-être pour commencer, donc ChatGPT 4 a été annoncé. Est-ce que pour toi qui es un spécialiste de tout ça, tu suis ces sujets depuis très longtemps, est-ce que il y a eu un avant et un après ChatGPT en matière d'intelligence artificielle ?
En fait, d'un point de vue technologique, ce sont des choses qu'on connaît depuis une dizaine d'années, à peu près. Les larges modèles, c'est tout à fait commun. Mais l'implémentation est remarquable. Et il fallait entraîner ces algorithmes pendant longtemps. Et le résultat est soufflant. Je pense que tout le monde a essayé ChatGPT 3. Et ChatGPT 4 est beaucoup, beaucoup plus complet. Et notamment permet... Alors, je dis ça parce que moi, j'ai essayé cette nuit... Mais l'interface à laquelle j'accédais visiblement n'est plus disponible, mais elle permet notamment de pouvoir remonter des images, de faire tout un tas de fonctionnalités qui ne fonctionnaient pas sur ChatGPT 3, et ça promet probablement des gains de productivité assez époustouflants. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis sur les entreprises qui ont utilisé ChatGPT 3 et qui disent que dans 50% des cas, elles ont repositionné des emplois. Alors que, comme on l'a dit, le truc est très incomplet, ne fonctionne pas encore très bien. Donc, GPT-4, ça va être probablement une assez grosse rupture avec des enjeux productifs assez massifs. Et en fait, c'est le moment que tout le monde attendait dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine du numérique en général.
Ouais.
C'est le moment où qui est prédit depuis 20 ans. C'est-à-dire le moment où l'intelligence artificielle trouvera une utilité et qui va probablement avoir un impact sur l'emploi de façon extrêmement significative.
Alors, on se pose la question parce que on est très nombreux à avoir testé ChatGPT 3.5, donc la version qui avait été annoncée en novembre dernier. On est beaucoup moins à avoir eu la chance de tester ChatGPT 4 parce que voilà, il faut être sur une liste d'attente.
Ça marche plus là.
Ça marche
cet
plus.
Cet après-midi, ça marche
compliqué.
Plus.
Enfin voilà.
Alors, il faut s'abonner. Il faut payer 20 dollars.
Il faut payer en plus, bien sûr.
Ça fonctionne.
L'exemple, c'est par exemple, il y a cet exemple que beaucoup évoquent, c'est cet examen simulé du barreau où GPT 4 parvient à se classer parmi les meilleurs 10% d'étudiants, donc les meilleurs 10%, alors que GPT 3.5 c'était les moins bons 10%. Il avait malgré tout, il passait son examen, mais il était, dans le bas du tableau. ChatGPT 4 est dans les 10%. Alors c'est un exemple, hein, bien évidemment.
C'est pas ça qui m'impressionne le plus. C'est parce que en fait, quand vous observez ce que c'est qu'un examen du barreau, moi je suis pas avocat, hein, évidemment, mais c'est quand même des règles de logique et de droit là où a priori une intelligence artificielle telle que ChatGPT ou GPT-4 est optimale.
Oui, il est très à l'aise dans ce type d'examen.
Ce type d'exercice, c'est vraiment là où la machine déroule. Là où c'est, je trouve, plus impressionnant, c'est quand vous avez en jeu des images avec une complexité séquentielle. Là, je trouve que c'est assez bluffant.
Michel, tu es toujours avec nos téléphones ?
Oui, je suis là, bien sûr.
Alors, pour réagir aux propos de Gilles, je pense que tu es à peu près d'accord avec lui. Tu dis que j'ai lu attentivement tous tes tweets. Passionnant, hein. Je vous invite à suivre le compte de Michel Lévy Provençal, mais aussi celui de Gilles, hein. Les conséquences de ces annonces sont pour toi vertigineuses pour le futur du travail?
Oui, elles sont, me semble-t-il, vertigineuses pour plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai qu'on voit pas trop la différence a priori entre GPT 3.5 et GPT 4 quand on commence à l'utiliser. Parce que les différences sont mineures a priori au travers de l'interface. Et là où les choses vont évoluer de manière drastique, ce sont dans les nouvelles versions qui vont sortir, toujours basées sur ChatGPT 4, qui, comme le disait Gilles, vont être capables de traiter des images, de transformer ces images non seulement en texte, mais parfois même en application. Il y a une démo, il y a une démonstration qui a été faite hier soir où le CTO de OpenAI prenait en photo un dessin d'une interface et transformait cette interface en une application qui était prête à être utilisée. Donc il y a plein de choses qui vont être faites avec ChatGPT et la quatrième version en l'occurrence, qui vont probablement bousculer beaucoup de métiers, en particulier les métiers des cols blancs. On pensait que l'IA et la robotique allaient disrupter d'autres types de métiers. Là, ce sont les cols blancs qui sont en ligne de mire.
Quel type de métier, quel type de métier penses-tu, s'il te plaît, Michel ?
Plusieurs métiers. D'abord, tout ce qui touche au marketing et à la communication. Aujourd'hui, il faut savoir que ces interfaces, ces intelligences artificielles, sont capables de résumer des textes, de traduire des textes, d'extraire des informations pertinentes de textes très larges, et de plus en plus larges d'ailleurs. Donc tout ce qui touche à la communication, tout ce qui touche au marketing va être particulièrement bousculé par ces outils. Demain, évidemment, les codeurs. Aujourd'hui, d'ores et déjà, on est capable d'utiliser ChatGPT comme un assistant pour coder des applications, pour créer des interfaces, pour faire du code, et dans n'importe quel langage en plus. Donc, évidemment, à part ceux qui inventent des algorithmes, qui vont chercher des algorithmes extrêmement complexes, toutes les applications qui sont les applications communes peuvent très facilement être codées grâce à ChatGPT. Donc, ces métiers du coding aussi vont être particulièrement attaqués dans les prochains mois et les prochaines années.
Gilles ?
Non, mais je suis évidemment tout à fait d'accord avec Michel. Je pense que, bon, personnellement, c'est peut-être quelque chose qui semble un peu surprenant, mais je suis pas très inquiet pour l'emploi en général. C'est-à-dire que des révolutions technologiques, on en connaît depuis plus de 200 ans, et à chaque fois on a dit l'emploi va disparaître. C'est vrai de vraiment presque toutes les technologies. Il y a une forme de ludisme à l'égard de toute nouvelle technologie qui est assez systématique. Si je prends l'exemple des codeurs, les codeurs connaissent des gains de productivité monumentaux depuis déjà 20 ans, 30 ans, avec des outils extrêmement nombreux. Par exemple, avant, vous vouliez taper une ligne de code et la mettre en œuvre, il fallait que vous installiez un serveur, tous les applicatifs intermédiaires entre cette ligne de code et le hardware. Mmh. Maintenant, ça n'existe plus. Et pour autant, on a des gains de productivité qui se chiffrent dans des facteurs 2, 3, 4, 5. On a toujours autant besoin de codeurs parce que c'est la révolution technologique de l'information et que donc, on a besoin de plus en plus de ces gens-là. Donc là, il va y avoir des gains de productivité qui vont être extrêmement importants. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, vous prenez une start-up comme Replit, par exemple, qui est vraiment extraordinaire, ou même GitHub, vous avez déjà plein d'intelligence artificielle. Personne ne vous dit, on va se retrouver à plus avoir de boulot. Simplement, on va avoir beaucoup, beaucoup plus de code partout, partout, partout. C'est déjà la direction que ça prend. Et je pense que dans les cols blancs, je pense que, évidemment, Michel le disait, et très justement, les métiers de marketing sont touchés. Je pense que tous les métiers de contrôle, les métiers qui sont très nombreux, des métiers administratifs, des métiers d'audit, vont être également touchés à cet égard.
Oui, parce que l'IA vérifie
plus efficacement que nous. Ce qu'on appelle le parsing, qui est un peu reproduire sur tout un tas de lignes de code la même chose, ça le fait très efficacement. Donc un contrôle fiscal, par exemple, je pense que les IA vont être remarquables pour faire ça. Donc si vous êtes indélicat avec les impôts, c'est une mauvaise idée parce que ça va
pas trop fort, Gilles, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Juste un mot aussi quand même sur l'origine d'OpenAI, qui est donc la maison mère, enfin qui a fabriqué ChatGPT. On se rend compte que au départ c'était une fondation qui voulait se consacrer en fait à la recherche de l'intelligence artificielle, dans le but d'en faire bénéficier toute l'humanité au départ. On avait quelques bribes d'informations sur la manière dont était fabriqué ChatGPT 3.5, ChatGPT 4, ça devient de plus en plus opaque.
C'est du business.
Micro Microsoft a mis 10 milliards Est-ce que ça change la donne finalement?
Ah ouais, je pense que moi je serais Google, je serais assez inquiet quand même. Parce que en réalité, on fait plus du tout les mêmes travaux intellectuels de notre côté. Donc c'est le principe de faire des prompts, donc une forme de conversation avec. Et ce que vous cherchez, c'est beaucoup plus quelque chose qui soit le résultat final qu'un résultat intermédiaire. Et il n'est pas exclu qu'on ringardise les moteurs de recherche à moyen terme. Donc il y a tout un tas d'enjeux. Beaucoup de gens disent que c'est très incomplet, qu'il y a un vrai problème de source, de vérité. Je pense que c'est extrêmement conservateur de critiquer ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que oui, c'est imparfait, oui, ça fonctionne pas bien, oui, il y a des enjeux sur quasi épistémologiques, sur l'origine de la vérité, etc. Néanmoins, c'est une rupture extrêmement forte. Et encore une fois, je pense que on va avoir les conséquences de cette révolution. Un peu comme on a eu le moteur à explosion qui a été inventé en 1858. La Ford T n'est pas apparue avant 50 ans plus tard, avant 1907. Donc c'est la même chose. Voilà, TCP/IP, c'est 1982. Il faut quand même quelques décennies avant que tout ça se...
Sauf qu'on a l'impression qu'avec la puissance de calcul, tout est exponentiel finalement.
C'est exponentiel. La loi de Moore est exponentielle par essence. Vous, tous les 18 mois, tous les 24 mois, vous doublez le nombre de transistors. Voilà, il n'y a aucune règle dans l'économie qui fonctionne comme ça. C'est la première fois où vous avez une règle exponentielle sur des décennies.
Michel, un mot sur, on va dire, la souveraineté de cette intelligence artificielle. Je sais que c'est un sujet aussi qui intéresse beaucoup Gilles. Voilà, OpenAI est américain. Est-ce que la bataille de l'IA est perdue pour nous, Européens et Français, à votre avis?
Alors c'est une question qui mériterait une heure de développement, mais je vais essayer de faire court quand même. Bon, il est clair que si on s'était lancé il y a 5 ans ou 6 ans avec des fonds conséquents pour construire notre propre LLM, probablement qu'on aurait pu rivaliser. Aujourd'hui, malheureusement, il est trop tard. Il ne faut pas espérer rattraper ce retard, sauf à mettre des dizaines de milliards sur la table, et sauf à risquer de refaire un quant bis. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que la bataille n'est pas forcément perdue parce qu'on a la chance, en France, en Europe, d'avoir des ingénieurs, d'avoir des chercheurs, d'avoir des talents extraordinaires dans ces domaines. Mais pour cela, il faut les aider, et pour cela, il faut financer cet écosystème. Donc financer cet écosystème, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider à la création de ces startups qui vont utiliser des IA probablement dans un premier temps non souveraines et peut-être à moyen terme avoir une commoditisation de ces IA qui vont nous permettre de continuer mais avec des IA qui peut-être seront open source ou peut-être une baisse des coûts de l'infrastructure d'IA. Il y a une chose que je voudrais rajouter qui me semble très importante, c'est que par rapport à ce qu'on disait sur les gains de productivité tout à l'heure, ils accélèrent à un rythme qui est inégalé. Je vais vous donner un exemple. Moi, ça fait à peu près un an que je travaille avec ces IA pour faire des résumés, produire des quiz, créer des textes, en gros. Eh bien, en l'espace d'un an, on a réussi à faire des applications qui ont été, par exemple, capables de résumer des documents de 300 pages en 2-3 heures. Aujourd'hui, avec GPT-4, on fait exactement la même chose en quelques minutes. Demain, avec GPT-5, on le fera en quelques secondes. Mais le plus grave, c'est que OpenAI et toutes ces plateformes sont en train d'avaler ces applications. Elles sont en train d'internaliser ces applications. Et ce qui pose un problème fondamental, c'est comment on va pouvoir créer de la valeur ajoutée. Et ça, sans un écosystème fort, sans financement, on n'y arrivera pas.
Gilles, pour conclure.
Ouais, bon, moi je vais pas paraphraser ce que vient de dire Michel. Je suis d'accord avec absolument tout ce qu'il a dit. Je pense que deux choses importantes. C'est d'abord, il y a un enjeu d'antitrust. C'est-à-dire qu'il faut que les régulateurs fassent leur boulot et que la valeur ne soit pas concentrée au sein de une ou deux ou trois plateformes et que on soit vraiment très très dur. Ce qu'on n'a pas été avec les GAFAM. Hein. Il faut que la valeur soit redistribuée. C'est pas normal qu'aujourd'hui Google ait 80% du marché. Google et Facebook aient 80% du marché de la publicité en ligne mondiale. C'est complètement anormal. Et donc, il va falloir que cette fois-ci, pour éviter ce que dit Michel, on travaille là-dessus. Puis la deuxième chose qui est importante, c'est que ce sont des technologies, on le voit très bien d'ailleurs avec ChatGPT ou GPT-4, qui ont des des principes qui sont de rupture. C'est-à-dire que, en fait, vous avez des cycles, et tous les 10-15 ans, vous avez un nouveau point d'entrée. Vous vous rendez compte que un mammouth, une boîte énorme comme Google, est aujourd'hui fragilisée par ça.
En quelques jours.
En quelques jours. C'est incroyable. Et c'est le propre des technologies numériques. Ce sont des technologies de rupture et c'est pas des technologies incrémentales. Et donc, l'Europe et la France, plutôt que de se dire, effectivement, comme le dit Michel, on va faire un quant de GPT-4, c'est une mauvaise idée. Par contre, voir le coup d'après et se dire, OK, on va prendre un risque et on va essayer de tout miser sur le coup d'après ou les coups d'après, ça, c'est beaucoup plus pertinent.
Oui. Et ce qu'il y a de rageant dans cette histoire, c'est qu'on a sans doute les meilleurs ingénieurs en intelligence artificielle.
Ouais, exactement. Et c'est pas rageant. C'est plutôt une opportunité, mais arrêtez de se dire on a peur de notre ombre et puis on va essayer de faire un peu mieux que les autres. Ça ne fonctionnera pas.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Michel Lévy-Provençal, fondateur donc de ces conférences ADX Paris, mais aussi entrepreneur et spécialiste de tous ces sujets. Et merci à Gilles Babinet d'être passé par le plateau de Tech & Co, coprésident du Conseil national du numérique.